Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le samedi 18 février. Vous écoutez Radio Silence par Élise Mbock. Et nous allons parler de l'Amérique. Encore. Ouais, l'Amérique, parce que il y a cette histoire de l'idéologie woke qui va parasiter les élections et la campagne présidentielle déjà et les élections. Et ça va être un grand moment, non pas de vérité, mais presque, car les républicains ne veulent pas entendre parler de la critical race theory qui envisage les choses en termes de... C'est l'égalité raciale, hein, la justice raciale, comme on dit, la marche pour les droits civiques, c'est toujours ça qui continue avec des expressions différentes. Et ça va être un problème. Alors, un article dans le USA Today, très bien fait, hein, alors pour une fois complet, sur ce sujet, est paru ces jours-ci et... franchement, il détaille tous les enjeux de la, je peux dire, de la critical race theory et tout. Il retrace aussi l'historique parce que quand on ne comprend pas l'historique, c'est pour cela qu'on n'a pas eu une bonne information, une mise en perspective, au moins pour ce qui concernait les événements qui ont eu lieu après la mort de George Floyd. Alors, le USA Today dit que, oui, déjà, il faut un peu actualiser la chose. C'est que le gouverneur de la Floride, Monsieur DeSantis, pardon, présidentiable, bien sûr, il va être candidat. Ce n'est pas, c'est un secret de Polichinelle. Il est contre l'introduction des études afro-américaines dans les cursus, hein, scolaire et universitaire, ce qui est d'ailleurs surprenant parce que, comme le rappelle le USA Today, la Floride est le premier État qui a autorisé l'enseignement de l'histoire afro-américaine dans les écoles en 1994. Alors, que le gouverneur DeSantis remette cela en cause en ce moment, ça surprit un peu, ça surprit un peu. C'est vrai que, bon, évidemment, les présidentielles arrivent, hein, donc la surenchère commence. C'est qui sera le plus à droite de la droite. Et j'ai dit bien à droite de la droite parce que M. Trump est contre lui aussi, mais de façon. Bon, ça fait partie du personnage Trump, on va pas s'en étonner, mais de la part du gouverneur de la Floride, on est un peu surpris. Alors, USA Today retrace quand même, fait un flashback où il dit cette histoire a commencé en 1967, je crois, oui, 1967, en Philadelphie, avec la colère des étudiants qui n'étaient pas contents du traitement qu'on leur réservait dans les écoles, dont les Noirs. Hein. Et ils ont organisé une marche parce que ce traitement incluait le fait, on le voit en France aujourd'hui, hein, ce traitement, c'était entre autres le fait que bah, ces étudiants aient été orientés vers... les filières impasse, hein, qui les renvoyaient automatiquement vers les emplois déqualifiés, mais ça, on a ça en France, hein, quand on vous envoie, j'ai oublié le nom, après, hein, je connaissais ça, mais il y a un certain niveau, là, on vous oriente directement dans les formations, parce qu'on se dit que vous n'allez pas pouvoir faire les études longues. Et depuis, après ces événements qui étaient assez brutaux en 1967, parce que les étudiants ont défilé, et ça n'a pas plu au commissaire de police, on va dire comme ça, Monsieur Frank Rizzo, je ne peux pas le dire, c'est vraiment un nom italien, Rizzo, je parle pas italien. Et la manifestation a été donc brutalement réprimée. Il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de gens tabassés, 57 arrestations, 22 vraiment sérieusement blessés. Et le commissaire Rizzo, qui faisait cela, l'a fait contre l'avis du républicain, qui est à ce moment-là le chef de l'État, comme de Santis aujourd'hui, en Philadelphie, et qui lui avait dit d'aller doucement. Mais non, lui, il allait très très fort, l'a tabassé. Toujours est-il dit que cela aboutit en 1967 à deux conclusions très intéressantes, dont c'était vraiment le précurseur de cette chose-là, c'est-à-dire la critical race theory. Et ça aboutit au fait que bah il fallait introduire vraiment alors du coup cette histoire-là. Elle a été introduite. Il fallait qu'il y ait plus d'enseignants noirs dans les établissements. Et ça constitue un peu les balbutiements de ce qu'on va appeler la marche vers les droits civiques pour l'égalité raciale. On va faire un saut, parce que pour faire un saut, ça permet de comprendre pourquoi la statue, parce que Frank Rizzo, pour avoir combattu cela, a été érigé en héros. Il y a une statue à son honneur, mais cette statue a été déboulonnée avec les manifestations très, on va pas dire radicales, parce que le mot prête à confusion, très violentes, suite à la mort de George Floyd. Parce que ce Frank Rizzo était devenu le symbole de la brutalité policière et de l'oppression des Noirs. Bon, c'est toujours franchement, quand on suit l'Amérique, ça semble évoluer, mais en fait, on revient toujours en arrière. Bon, en 2005, finalement, en Philadelphie, on autorise les études, ces fameuses études qu'on avait demandées en 1967, les études sur l'histoire afro-américaine. Et pour les uns, alors, cela permettra aux étudiants noirs de se sentir un peu plus forts, d'avoir plus de fierté et d'exprimer plus de solidarité envers les problèmes sociaux et puis envers les autres, parce qu'ils auront eux-mêmes été confortés dans leur identité. C'est quelqu'un qui disait, j'y pense là rapidement, j'ai oublié qui l'a dit, l'auteur, mais ça me vient en bribe, hein, j'ai pas mes livres ici, je suis en Afrique, j'ai rien, c'est terrible, mais je sais qu'il parlait, c'est quelqu'un qui a parlé des liens forts et des liens faibles. C'est donc un sociologue qui étudiait à Chicago, je crois justement, étudiant la question de l'intégration des minorités ou plutôt des immigrés, on va dire comme ça, parce que le mot minorité est un terme qui fâche. Et il disait justement que les liens forts, ce sont ceux qu'on a de proche en proche, et que plus ces liens sont forts, plus les gens sont, comment on va dire, se sentent en sécurité, sont sécurisés, et plus ils iront facilement vers l'autre parce qu'ils savent qu'ils peuvent revenir vers la communauté. Et ce chercheur disait donc qu'il fallait encourager les communautés, parce que ces communautés avaient donc cette force de comment on va dire, elles rassuraient les gens. Et ce point comme ça, comme la famille, quand je dis la famille aujourd'hui, je ne veux plus dire la famille, hein, ce repère fondateur était tel que quelqu'un pouvait aller à l'extérieur, rencontrer les autres sans problème, sachant que derrière lui, il y a un soutien, voilà, il y a un mur. Et donc, c'est un peu comme la religion, hein, voilà. Si vous croyez en Dieu, vous y allez parce que vous avez la foi, puisque vous savez qu'il vous soutient. Voilà. Et on dit en américain, you have my back, you have my back, c'est-à-dire que si je tombe, vous allez me soutenir, vous allez m'empêcher de tomber parce que vous allez constituer une force comme ça en arrière-plan pour qu'il va m'empêcher de tomber. Alors on a ainsi promu la valorisation des communautés sur cette base-là. Et ensuite, il a parlé des liens faibles. Les liens faibles sont ceux qu'on a avec les institutions, justement. C'est-à-dire que si, alors avec des choses plus éloignées et qui sont justement des choses qui vous amènent à l'intégration. Et donc, ce rapport-là aux institutions, il est conforté lorsque vous êtes vous-même déjà en sécurité, voilà. Et si vous y allez étant déjà affaibli sur votre base personnelle, vous allez avoir des problèmes. Mais ça, on retrouve cela dans toute l'inégalité sociale. Par exemple, en France, avec les grandes écoles, où on sait que les enfants des, comment on va appeler ça, les héritiers, pour faire court, sont habitués à côtoyer les institutions, ou plutôt les institutions font partie de leur communauté dès leur naissance, en sorte qu'ils gèrent très bien cela et ils n'ont pas peur de ces institutions. Ils les connaissent très bien, c'est leur père, c'est leur mère, c'est leur fratrie. Et donc, ils ont déjà quelque chose comme un héritage, c'est pour cela qu'on les appelle des héritiers culturels, familiales, un patrimoine, tout ce que vous voulez, symbolique, qui leur permettent de bien gérer cette intégration, cette connexion avec les institutions et puis de trouver des emplois qualifiés. Ce que les Noirs n'avaient pas, et donc ça les mettait en difficulté, ils trouvent des emplois sous-qualifiés. Et ça revient, cette sociologie de Chicago revient par là, je veux dire, on l'avait chassée, ou plutôt on l'a découverte après tout cela, mais en fait, c'est les mêmes études, hein, de toute façon. Et dans l'USA Today, toujours, il remonte à 1619, le moment où ben, l'esclavage commence, la traite des Noirs. Et là, c'est un projet, c'est une étude qui a été faite et qui a d'ailleurs été couronnée par un Pulitzer et qui, justement, est aussi pour rattraper les inégalités qui découlent de l'esclavage, dont c'est déjà du symbolique. Et quelque part, c'est ce que Black Lives Matter, qui a donc mené le pas de charge après la mort de George Floyd, et qui demande des réparations. Parce que au sortir de l'Holocauste, les Juifs ont été indemnisés et on se demande bien pourquoi les Noirs n'ont toujours pas été indemnisés alors qu'ils ont été victimes des calamités. On ne compare pas parce qu'après, on va dire, c'est, comment on va dire, la comparaison ou la course à la victimisation. Non, mais c'est que bah, le mal, c'est le mal. Hein. Et les atrocités ont été faites, commises de part et d'autre. Et autant les Juifs ont donc eu cette compensation qui leur a permis de rattraper leur retard, de refaire leur retard très rapidement, autant les Noirs n'ont pas eu cette compensation. Et ils sont toujours à la traîne parce que je crois que c'est toujours en Philadelphie. Les étudiants constatent qu'aujourd'hui, les fonds sont orientés pour l'éducation, il y a toujours une forme de racisme systémique. Voilà, c'est ça la critical race theory qui va chercher de façon sous-jacente comment le racisme est au travail. Quelqu'un a écrit le racisme au travail, Monsieur Bataille, en France, le racisme au travail par aussi ces choses qu'on ne voit pas. Il faut regarder tout cela, comment le racisme systémique devient systémique par un fonctionnement qui semble, comment on va dire, légitime, parce que il est porté, quand on dit systémique, c'est qu'il est porté par les institutions lui-même. Et donc, quand on oriente les fonds, comme en Philadelphie, où les fonds sont plus importants dans les écoles où il y a moins de mixité sociale, et moins importants de l'autre côté, évidemment, un peu comme les ZEP en France, hein, zone d'éducation prioritaire, et si on compare ces zones-là avec le collège, je sais pas, grand collège, où on forme les Henri V ou Henri IV, je sais pas trop, c'est Henri IV, je crois, le lycée Henri IV, c'est pas les mêmes fonds. Et donc, on a toujours ces choses-là. Alors, c'est bien le ministre de l'Éducation nationale de la France connaît toutes ces choses-là. C'est très bien. Et on n'entend même plus parler ces jours-ci. C'est bizarre parce que, entre-temps, on a le président Macron, j'ai vu, qui a annoncé les mémoires de la décolonisation camerounaise. Enfin, là, lui, avec un tandem qui sera à la tête de tout cela, un chanteur, j'ai pas très bien compris, le noir, le camerounais, et puis l'historienne, une française, qui vont regarder parce qu'on va déclassifier les archives, mais seulement ça sera, la consultation sera restreinte, ce sera pour ouvert à tout le monde. Donc, on commence à se pincer. Et ils vont écrire les mémoires de la décolonisation. Enfin, il y a d'autres experts. Hein. Eux, ils font que un peu, comment on va dire, ils administrent l'affaire. Bon, c'est toujours. On prend, mais en même temps, on s'est dit, ben, qu'est-ce que l'historienne française vient faire là-dedans? Bon, il semblerait qu'elle ait fait une thèse sur les martyrs de l'indépendance, dont les pères fondateurs. Tué en Afrique, bon, c'est très bien, mais franchement, bon, no comment, on laisse ça passer. Mais ça, c'est toujours ce genre de, vous voyez, le racisme systémique, où c'est aussi le droit à la parole, c'est aussi qui parle pour qui. Et vous savez très bien que selon que vous êtes le vainqueur ou le vaincu, en fonction de votre position, ce ne sera pas la même histoire. Hein. Même si on part des mêmes documents, on aura tendance à trouver ci et ci et ça comme explication parfois logique, parfois tirée par les cheveux, je ne sais pas trop. Toujours est-il que Madame, on revient en Amérique, Madame Nikki Haley, ancienne gouverneure de. Je ne sais pas si elle était gouverneure, mais je crois, de la Californie du Sud, et qui a été nommée par Trump diplomate aux Nations Unies, représentant l'Amérique. Elle est candidate contre M. Trump. Bon. Hein, candidate contre celui qui vous a nommé, ça fait un peu bizarre. Alors on lui dit. Elle a eu tout de suite une critique. Hein. En bonne et due forme, venant d'une républicaine, évidemment, qui est dans la tendance DeSantis, du gouverneur de la Floride, et qui lui dit, bah, en gros, vous êtes indienne. Vous voyez où on arrive hein, quand on rentre dans ces questions de la critical race theory, parce que il y a des gens, pas des gens, les républicains ne veulent pas qu'on parle. De ces choses-là, de l'histoire, parce que il y a une question de l'origine des richesses. D'où viennent, on verra, beaucoup de richesses proviennent du commerce, la traite des Noirs. Voyez? Et donc, comme ce sont les républicains probablement qui ont le plus bénéficié de cela, il est normal qu'ils veuillent à tout prix éteindre la vérité sur cette chose-là et qu'il le qualifie cela d'indoctrination, d'une indoctrination raciale. Bon, les gens vont être indoctrinés et que ça va être une ampleur raciale radicale. Ça va les radicaliser. Voilà le grand mot. La radicalisation qu'on voulait combattre en France avec le Karcher. Donc, M. DeSantis dit, le gouverneur, que ben, ces études-là vont aboutir à la radicalisation des Noirs américains qui regarderont d'un mauvais œil probablement tous ceux qui sont enrichis en vendant leurs ancêtres. Bien sûr, ça peut arriver. Mais on ne peut pas commencer à disqualifier quelque chose de bien, comme l'étude de l'histoire, au prétexte que on imagine déjà ce que pourraient être les conséquences. À ce moment-là, on ne dit jamais la vérité, hein, parce que la vérité, de toute façon, elle a des conséquences, elle peut blesser. Mais si on commence à la rejeter parce qu'elle va blesser, ben on a la société qu'on a aujourd'hui, qui est une société du grand mensonge généralisé et de la désinformation totale. Et donc, il y a un problème de morale, problème moral, qui contredit même l'identité des républicains, au passage. Parce que là, la charge qu'on monte contre Madame Nikki Haley, cette charge, elle est terrible parce qu'on lui dit même rentre chez toi, puisque tu es d'origine indienne. C'est comme si on lui disait à Kamala Harris, la vice-présidente, ça n'a pas de sens. On arrive à des extrémismes, enfin, des choses extrêmes qui ne sont pas acceptables, tout simplement parce qu'elle, à un moment donné, elle avait demandé elle était pour la suppression d'un drapeau, ils appellent ça des confédérés, je ne sais pas trop qui était aussi plus ou moins lié à ces choses racistes, ou à des héros controversés. Et on a descendu ces drapeaux-là. Ça ne plaît pas aux républicains qui se disent purs et durs parce qu'eux, ils seraient les descendants enfin, de la colonisation britannique, bien sûr. Et elle prend tout sur elle parce qu'on se dit, si ces drapeaux-là, elle était contre ce drapeau des confédérés, ben, ça veut dire que elle serait probablement en faveur de la critical race theory. Et donc, eux, ils sont pas d'accord. Celle qui critique n'est certainement pas d'accord. Donc, elle lui, vous voyez, on commence déjà à vous attaquer par anticipation parce que cette histoire arrive à la censure. Cette histoire arrive à ce qu'on a vu aussi de l'autre côté avec les Juifs qui empêchent de visiter l'histoire parce qu'on parle de révisionnisme. Alors, c'est les mêmes choses. On bloque l'accès à la connaissance, on bloque l'accès à la science. Bon, c'est vrai, après on vous dit, vous allez remettre en question Jésus, mais bah, Jésus, de toute façon, lui, il était libre dès le départ. Il avait dit, celui qui veut, il croit. La croyance et la foi, c'est pas une obligation. Vous croyez ou vous croyez pas. Vous êtes chrétienne, vous n'êtes pas chrétienne. Ça, c'est dès le début. Cette liberté-là a été laissée par le Christ. Je ne vois pas pourquoi les gens se prennent pour des super dieux et interdisent qu'on regarde, que les gens aillent revoir, enfin, aillent chercher leur histoire, leur identité, surtout dans une société où ils sont un peu paralysés. C'est vrai qu'ils le sont de moins en moins, mais quand même, enfin, quand ils le sont de moins en moins. On apprend encore que c'est parce qu'ils sont repris de l'autre côté par des sectes. Alors, c'est très. On sort d'un embrigadement pour rentrer dans un autre embrigadement et on vous interdit de rechercher derrière d'où vous venez, qui vous êtes. Vous avancez comme ça à l'aveugle et c'est ça fait votre faiblesse parce que vous n'avez pas. Les bases d'une revendication quelconque. Or, c'est avec l'histoire qu'on peut revendiquer quelque chose. Si on n'a pas son histoire, bah, je ne sais pas trop ce qu'on revendique. Hein. On est comme ça, comme un être qui flotte, comme un être qui erre. Et il faut, parce qu'on est. J'avais utilisé un concept dans le clonage institutionnel, où je disais que les immigrés étaient déterritorialisés, y compris par rapport à leur propre corps. Vous voyez, donc les gens vivent hors corps, ils vivent hors sol, et ça crée des problèmes. Et quand en plus ils n'ont pas de papier, c'est terrible. Ce flash va pas aller plus loin que ça. Hein. C'était juste pour vous dire que ça commence à bouger, nickel, les candidates. Ron DeSantis est candidat, le gouverneur de la Floride. Mike Pence sera forcément candidat, plus Monsieur Trump. Mais ils sont candidats à la candidature. Il faut savoir une chose, parce que quand on voit Madame Allais qui se déclare candidate, la candidature à la candidature, si on peut dire comme ça ne veut pas forcément dire qu'on va être celui qui viendra en premier. Il y a beaucoup de candidats qui sont là parce qu'ils sont en train de faire la compétition. Ils sont en compétition pour la vice-présidence, hein, être les teammates. Ils sont là pour la vice-présidence et c'est le cas de Madame Hallé. Donc quand on dit peut-être qu'elle va faire compétition contre Trump, non, ça allait vite en besogne, c'est pas ça. C'est que il y a deux niveaux de candidature. Il y a ceux qui sont vraiment là pour la première place et puis d'autres qui sont là parce que au fur et à mesure que la campagne va se dérouler, les Américains vont choisir parmi ceux qui se sont présentés qui est en mesure d'accompagner celui qui sera retenu au final. Vous voyez, c'est la politique. Et alors, quand on ramène ces choses-là à l'immigration indienne qui a eu lieu, combien d'années, vous vous rendez compte, vous arrivez à représenter l'Amérique comme ambassadrice, et puis c'est tout ce qu'on a à vous dire, c'est que le racisme est vraiment systémique, voilà. Et non seulement il est systémique, il est mental. Il est mental parce que les républicains, alors on finit avec l'identité républicaine. Qu'est-ce que les républicains veulent passer comme message? Les républicains, ils ont un problème avec l'électorat noir. Les démocrates raflent toujours cet électorat parce que quelque part, les démocrates, bien sûr, sont plus filous, hein, ils sont plus malins aussi. Ils évitent ce genre de piège complètement inutile. Et la critical race theory, c'est peut-être ça qui va faire chuter les républicains en 2024. S'il y a quelque chose qui peut les faire chuter, ça va être cette chose-là. Parce que l'électorat afro-américain, auquel se joint aussi maintenant, tout le monde commence à demander, hein, parce qu'il y a beaucoup de minorités, notamment les Mexicains. Vous voyez, qui sont aussi à la frontière entre les autochtones. Et puis, bon, aussi, ils se posent des questions qui sont intéressantes à regarder. Et on interdit là aussi. Ces deux électorats sont la variable d'ajustement pour la victoire aux élections présidentielles. Donc, si les républicains qui se disent de la République, c'est-à-dire des gens qui croient à la Constitution, et qui croient au droit, si ces gens-là, parce que le droit, ça découle de la morale, et donc en ce sens, donc ils sont religieux, si ces gens marchent sur la Constitution qui parle d'esprit de la liberté, c'est pas que les démocrates ne le soient pas, hein, mais être républicain, ça a un sens. C'est d'abord être pour la loi. C'est être pour l'ordre et c'est pour être pour la Constitution et les principes fondateurs. On ne peut pas dévier ou déroger à ça. Et il est intéressant de voir que, paradoxalement, le gouverneur DeSantis invoque précisément les pères fondateurs pour disqualifier les études afro-américaines dans ce sens qu'elles ne vont pas dans le principe d'inclusion que ces pères-là fondateurs prônaient et qui oblige à rejeter tout ce qui peut être source de désunion ou de division. Alors, est-ce que cela implique de taire la vérité pour éviter la division et la désunion? C'est une grande question philosophique qui se pose aux républicains, et c'est aussi une question identitaire sur le parti lui-même. Hein, il croit en quoi? En quoi est-ce que ce parti croit? C'est la question qui va être posée avec cette revendication afro-américaine qui, vous avez vu, depuis 1900, c'est même 1619, la rencontre avec le colon, et plus précisément 1967, tout ce qui a eu lieu entre-temps jusqu'à aujourd'hui. On est toujours à tourner autour de ça. Et en même temps, c'est les mêmes qui vont être contre les réparations, alors qu'ils étaient pour les réparations pour les autres. Donc, les républicains auront un problème avec ça. Et en plus de ce problème, ils ont le problème du vote par correspondance, qui est primé par les démocrates. Donc là, M. Trump a vu un peu ça, il commence à travailler un peu là-dessus, en appelant ceux qui peuvent, comment dire, parler là-dessus, faire écho à cela, en les appelant à sensibiliser les citoyens sur l'importance de voter par correspondance, justement, parce que eux, ils sont restés un peu rigides. Et en restant rigide, il faut être un peu flexible. En restant rigide, ils ont perdu la bataille du vote par correspondance parce qu'ils demandent aux gens d'être présents le jour du vote et ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'aléas et d'impondérables qui peuvent arriver. Bon, après, hein, on fait ce qu'on peut, chacun fera ce qu'il peut, ce qu'il veut, mais ce qui est sûr, c'est que les études afro-américaines vont être exigibles, ça ne va pas s'arrêter. Et ce qui est sûr aussi, c'est comme en France, on demande que soit intégré dans l'histoire tout ce qui est l'immigration, les origines, et tout ce qui est surtout la colonisation, franco-française en Afrique. Mais vous avez vu, le président Macron, il botte en touche, il parle pas de ça. Il vient plutôt faire un mémoire sur la découverte. Bon, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Ça comme passe par les méthodes qu'ils jugent les plus douces peut-être, ou les plus acceptables, ou les plus inoffensives, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que cette histoire sera construite d'un point de vue politique, alors qu'on veut une histoire qui soit construite d'un point de vue éducatif. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Élise Mbok. Je vous dis à bientôt.